Bonsoir Pierre, on commence avec Alam Hebdo, le quotidien égyptien. Poutine invité à rejoindre le Conseil de paix de Gaza. Et Al Jazeera poursuit. Trump demande à Poutine de rejoindre la délégation du Bureau des États qui administre Gaza malgré la guerre en Ukraine. Pourtant, Asher Khalwazat, lui, mentionne que c'est Poutine qui aurait proposé ses services lors d'une conférence de presse samedi, ainsi que la Thaïlande. Et pendant ce temps-là, à Gaza, les orages déferlent, détruisent tout sur leur passage, et bien sûr, c'est la population qui continue à trinquer. Concernant ce conseil d'administration de la paix à Gaza, Al-Alam Hebdo, donc journal égyptien, nous informe quand même qu'il faut payer la modique somme, tenez-vous bien, $1 milliard pour rejoindre le Conseil de la paix comme membre permanent. Et c'est Trump qui a imposé cette cotisation. Nous reviendrons sur ce Conseil de la paix en fin de revue de presse, mais nous allons bien sûr vous parler du sujet qui vous tient à l'estomac tous en ce moment, c'est que se passe-t-il en Iran? Et la question, c'est qui a tué des milliers de personnes en Iran depuis les protestations? Eh bien, l'Iran accuse Israël et l'Amérique. Et quand on dit l'Iran, ce n'est rien que moins qu'Ali Khamenei, le guide suprême, qui s'est exprimé en confirmant la mort de plusieurs milliers d'Iraniens depuis le 18 décembre. Confirmation inhabituelle, car le guide suprême n'a pas pour habitude de commenter les morts de son pays et certainement pas ceux de la répression. Mais il existe de sombres contrastes, écrit le journaliste d'Al Jazeera, entre le narratif de l'État iranien et celui du président américain, entre ce qui s'est passé et entre ce qui va se passer. Alors, par exemple, le médecin-chef iranien Ahmed Majarib, le médecin officiel de l'État iranien, a déclaré aux médias tout autant officiels iraniens, les manifestants ont été visés à la tête avec des armes mortelles, bien évidemment dans le but de donner la mort, hein, il insiste, et ces tirs auraient eu lieu à partir des toits de personnes qui ne seraient pas de nationalité iranienne. Khamenei lui reconnaît que la crise a des raisons économiques et que c'est la motivation des manifestants qui défilent dans les rues iraniennes. Et il déclare Trump est un criminel et il accuse également Trump d'être responsable de la mort de milliers de manifestants. Israël et l'Amérique sont à l'origine de la déstabilisation, c'est eux qui l'ont organisée alors que les manifestants défilaient de façon totalement pacifique. Les forces d'opposition iraniennes rejettent totalement cette version et accusent les forces iraniennes militaires et policières et celles de l'État iranien. Et excusez-moi, il y a un échange macabre, pas un échange macabre, une condition d'échange macabre posée par l'État iranien qui réfute l'existence de cette condition, c'est que pour rendre les corps des personnes mortes pendant les manifestations aux familles, l'État iranien exigerait une signature des familles, comme quoi ces dépouilles mortelles appartenaient aux forces paramilitaires de l'État iranien et n'étaient pas des protestataires. Et les autorités iraniennes aujourd'hui rejettent le fait qu'elles exigent cette condition pour restituer les corps aux familles. Dimanche, Trump a accusé Khamenei, je cite, d'être un homme malade. Quant à Netanyahou, il ordonne à ses ministres, excusez-moi, de la fermer, car l'un d'eux n'a rien trouvé de mieux que de déclarer que des Israéliens étaient présents à Téhéran pour organiser les manifestations ou pour en tous les cas les aider. On se dit qu'effectivement, il y en a dans certaines situations qui ferait mieux de la fermer. On continue avec Sam Menassa, qui est un éditorialiste et qui pose la question: quel Iran va émerger de cette crise? L'Iran va-t-il exploser de l'intérieur ou l'Iran va-t-il en fait réussir à progressivement changer, modifier ses institutions. Alors, il n'y a d'intérêt ni pour les Iraniens ni pour les Occidentaux à une explosion généralisée. Tant Trump est occupé ailleurs, explique l'éditorialiste, et il a déjà effectivement suffisamment à faire. Abdulrahman Al-Rached pose lui une autre question. L'Iran est-il prêt à changer? L'Iran a-t-elle envie d'être à la pointe de fusil? Alors, première interrogation dans ce changement, c'est l'Iran a-t-il envie d'être à la pointe de fusil d'Israël et des USA? Quand on dit à la pointe de fusil d'Israël et des USA, c'est-à-dire que Israël et l'Amérique feraient la loi dans les rues de Téhéran. Cela, bien sûr, ne permettrait pas d'entamer les mesures du changement politique. Et puis, toujours une autre possibilité, qui est de dire que, en fait, l'Iran a toujours été en contradiction depuis 40 ans entre un État moderne et la doctrine islamique, et que ça ne peut plus durer. Et cela, d'autres l'avaient prédit avant, et le journaliste rappelle que Kissinger et Brzezinski, deux autorités politiques américaines, avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Alors, que reste-t-il face à ces interrogations? Réponse, c'est soit l'explosion, soit la modification et soit la réorganisation politique de l'intérieur. Sauf qu'il reste une interrogation. Que se passe-t-il avec le Liban, l'Irak, le Yémen, qui sont les proxystes de l'État iranien, c'est-à-dire qui sont ses prolongations? Et donc, l'Iran peut-il, dans ces cas-là, intervenir de ces pays, et cela ferait simplement de Téhéran la possibilité de poursuivre ses actions, et le journaliste de conclure, ces pays deviendraient alors le lit de mort de Téhéran. Avec Al-Aram Hebdo, journal égyptien, nous revenons sur ce Conseil de la paix avec lequel je commençais la revue de la presse. Conseil de la paix donc pour gérer Gaza. Trump en est le président automatique, hein, il n'est pas élu, il s'est autoproclamé président de ce conseil. C'est lui qui décide qui est invité, qui est membre permanent, qui paye 1 million de dollars. Alors, à quoi sert ce million de dollars? Il sert à payer le personnel qui va être chargé de l'administration de Gaza et puis à reconstruire Gaza, c'est-à-dire à construire des maisons dans du solide, à construire des routes, à construire des infrastructures de façon à ce que Gaza redevienne une ville vivable, habitable pour ses habitants. Il y aurait, selon des indiscrétions, mis en place en fait un forum alternatif. Ce Conseil de la paix deviendrait un forum alternatif, c'est-à-dire qu'il ne serait pas simplement créé pour Gaza, mais s'élargirait pour résoudre les crises mondiales. Et trois États membres auraient déjà ratifié la charte. On ne sait pas trop exactement lesquels, donc je préfère, c'est-à-dire on n'a pas de certitude, même si les noms circulent. Et je préfère, dans l'interrogation, m'abstenir pour l'instant de les énumérer. Et en fait, le fait de l'existence de cette charte, le fait d'un paiement d'une adhésion, la modalité d'organisation de ce Conseil de la paix ferait que c'est une institution qui se préparerait à concurrencer les grandes organisations internationales, à commencer par l'ONU. Badr Abdelhati, le ministre des Affaires étrangères égyptien, s'interroge pour savoir quelle est justement l'étendue de ce Conseil de la paix et est-ce que l'Égypte a intérêt à intégrer ce Conseil de la paix. Question posée également vendredi, enfin samedi, excusez-moi, par le président égyptien Al-Sisi, c'est-à-dire qu'à ce jour, l'Égypte n'a pas encore rendu sa réponse à Trump pour savoir s'il intégrait ou s'il n'intégrait pas le Conseil de la paix. Mais vendredi, le chef du service des renseignements égyptiens, Hassan Rachad, lui, il a été nommé membre du conseil exécutif du Conseil de la paix. Samedi, le ministre des Affaires étrangères égyptien, Abdelhati, a donné une conférence de presse en expliquant que ce comité de la paix ne pouvait en fait avoir de survie que s'il était exclusivement placé sous la supervision obligatoire de Washington. Les autorités gouvernementales de Gaza, elles, publient un communiqué dans Telegram. Alors, quand on parle des autorités gouvernementales de Gaza actuelles, c'est sous-entendu le Hamas, même si ce n'est pas dit ainsi. Eh bien, le Rama serait donc prêt à transférer tout son pouvoir au nouveau comité administratif de Gaza. Surprise! Et de plus, il y aurait des membres des autorités gouvernementales de Gaza prêts à coopérer avec le comité administratif de la paix. Donc, ce qui veut dire qu'on intègre des militants du Hamas à l'intérieur du comité de Gaza. On a un petit peu l'impression de marcher sur la tête. Il y aurait dans ce comité d'administration de Gaza 12 membres, parce qu'il y aurait un sous-comité qui serait le comité palestinien. Et parmi donc ces 12 membres, à la tête de ces 12 membres, il y aurait un ancien ministre de l'autorité palestinienne qui s'appelle Ali Shaat. Et vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais Ali Shaat est quand même considéré comme un technocratique, hein. C'est quelqu'un qui est une formation entre guillemets de haut fonctionnaire. C'est quelqu'un à qui il semble qu'on pourrait faire confiance en matière de compétences professionnelles et qui aurait comme objectif vraiment l'administration, la réorganisation et la remise en fonction de Gaza. Notre revue de presse est maintenant terminée. Je vous dis à la semaine prochaine.